Voici donc les grandes lignes de l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. C'est l'accent des autres, comme d'habitude, avec la Radio-Télévision Suisse, RFI, Radio-Canada, France Inter et la RTBF. Et on va d'abord évoquer cette réforme en Belgique dans le monde de l'enseignement obligatoire, avec un nouveau calendrier scolaire approuvé cette semaine par les députés francophones. Conséquence, Jacques Kremers, la prochaine rentrée scolaire, ce sera le 29 août.
Oui, c'est une réforme qui vise à mieux prendre en compte les besoins des élèves et qui en effet bouleverse aussi les congés scolaires. Il va falloir s'y habituer.
En France, et à 8 jours maintenant du premier tour de la présidentielle, une affaire un peu gênante empoisonne la campagne du président candidat, Karine Bécard.
Oui, Emmanuel Macron se serait bien passé de l'affaire McKinsey, du nom du cabinet de conseil que le gouvernement français a beaucoup sollicité ces 4 dernières années. Un rapport a été publié. On parle de près d'1 milliard d'euros qui lui auraient été versés l'an passé. Le président a dû dégainer cette semaine 2 de ses ministres pour déminer le sujet.
Le Covid et les dernières mesures qui disparaissent en Suisse. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics ni dans les centres de soins, Pierre Anchoffat.
Le Conseil fédéral a en effet levé les dernières mesures cette semaine. Un goût de normalité retrouvé alors que le coronavirus circule toujours.
C'est une première depuis 36 ans. Le Canada se qualifie pour la Coupe du monde de soccer ou de football, Nadim Moubarak.
Oui, ce sera la 2e participation du Canada au mondial après celle de 1986 au Mexique.
Enfin, après le sport, la culture, on va se quitter au Sénégal cette semaine, Nicolas Sûr, avec l'ouverture d'une exposition rare au Musée des civilisations noires.
Picasso à Dakar, 1972-2022, elle souligne combien l'artiste a été influencé par l'Afrique.
Voilà donc pour les titres, bienvenue dans l'accent des autres. La prochaine rentrée scolaire se fera donc dès le 29 août prochain en Belgique pour tous les élèves dans l'enseignement obligatoire. Les vacances d'été seront plus courtes. C'est une conséquence de la réforme des rythmes scolaires, Jacques.
Oui, fini 2 mois de vacances en été, fini aussi les trop longues périodes de cours entre 2 périodes de repos. Le calendrier scolaire prendra dorénavant mieux en compte les besoins de l'enfant en équilibrant les périodes de travail en classe et de congés scolaires. Concrètement, l'agenda scolaire alternera désormais 7 semaines de cours et 2 semaines de congés, 8 semaines de cours maximum après la rentrée et avant les grandes vacances. La rentrée se fera donc le 29 août déjà et l'année se terminera le vendredi 7 juillet.
Oui, ce changement allonge donc les vacances d'automne, c'est le congé de Toussaint, et également le congé de détente, qu'on appelle aussi les vacances de carnaval.
Les élèves auront donc 2 semaines de congé au lieu d'une actuellement. Et pour s'assurer qu'ils pourront réellement profiter de cette période pour se ressourcer, aucun test ne pourra être organisé durant les 5 premiers jours de chaque rentrée. Tous ces changements ne modifient pas le nombre de jours de classe qui reste fixé à 182. Et pour s'assurer que les parents respectent bien les nouvelles règles, pour vérifier qu'ils ne partent pas en vacances dès le 1er juillet comme auparavant par exemple, il y aura des contrôles de fréquentation scolaire.
Alors, particularité de cette réforme, Jacques, elle ne concerne que le sud de la Belgique, le côté francophone donc, et ça n'est pas sans poser une série de problèmes.
Oui, car les calendriers scolaires ne sont pas synchronisés avec la Flandre ou même avec la petite communauté germanophone à l'est du pays. Les familles vivant à Bruxelles ou le long de la frontière linguistique, des parents divorcés qui scolarisent des enfants dans l'autre communautés ou de part et d'autre vont connaître des difficultés d'organisation, des cas minoritaires, mais qui appréhendent plus que d'autres la prochaine rentrée scolaire.
Oui, et bien avant la rentrée scolaire, ce sera la présidentielle en France dans 8 jours, le 10 avril. Et dans ce cadre, les adversaires du candidat Macron ne cessent depuis 2 semaines maintenant de l'attaquer sur le recours du gouvernement au cabinet de conseil. C'est ce qu'on appelle l'affaire McKinsey. Dans un rapport sénatorial, ses opposants ont découvert que les dépenses en cabinet de conseil ont littéralement explosé en quelques années, de 380 millions d'euros en 2018 à près de 900 millions l'an dernier, en 2021. Le président candidat a donc décidé de missionner 2 de ses ministres pour tenter d'éteindre la polémique. Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt, en charge respectivement de la fonction publique et des comptes publics, Simon Le Baron.
Deux membres du gouvernement qui convient la presse au ministère à 10 jours du premier tour pour répondre directement, même sans les nommer, aux adversaires du président candidat.
Des attaques de plus en plus fortes et de plus en plus grossières.
Il y a des amplifications, il y a des déformations qui sont autant de poison pour le débat et pour la démocratie.
Oubliez le devoir de réserve auquel sont soumis les ministres, Amélie de Montchalin assume cette irruption dans la campagne.
On est là parce qu'on considère que nous sommes dans une période particulière qui est celle d'un débat démocratique important et qu'il nous semble que ce débat doit reposer sur des faits.
Les faits, donc, selon le gouvernement, ce sont des cabinets de conseil loin d'être omniprésents, 0,3% de la masse salariale de l'État et qui, surtout, ne font pas la pluie et le beau temps.
Jamais les décisions ne sont prises par les consultants. Les décisions dans notre pays sont prises par des hommes et des femmes politiques légitimes, responsable devant le Parlement, responsable devant les Français.
Quant aux impôts que McKinsey aurait omis de payer en France, les ministres rappellent qu'un contrôle fiscal est en cours. Pour la suite, ils promettent à nouveau de faire moins appel aux consultants et d'être plus transparents. « Nous n'avons rien à cacher », assure le camp Macron, quitte à prendre le risque d'apparaître sur la défensive.
Reportage de Simon Le Baron pour France Inter. On va revenir un instant à présent sur le Covid en Suisse, parce que la Confédération a tourné la page ce vendredi. Le gouvernement a levé les deux dernières mesures encore en vigueur jusqu'hier. Plus de masques obligatoires dans les transports publics, ni dans les établissements de soins. Et puis l'isolement de 5 jours en cas de test positif est également levé, Pierron.
On enregistre pourtant plus de 10 000 nouveaux cas par jour et certains épidémiologistes estiment qu'on doit être plus proche des 100 000 vu que la discipline des tests s'est étiolée. Reste que le pic a bien été franchi il y a 15 jours et que le variant actuel ne provoque plus autant d'hospitalisations. La situation dans les hôpitaux est revenue à la normale, y compris aux soins intensifs où les cas Covid n'occupent plus que 17% des lits. C'était le critère essentiel pour le gouvernement. C'est pourquoi il a levé les dernières mesures.
Oui, et pourtant, vous le disiez, le virus circule toujours.
C'est vrai, on encourage par conséquent les personnes symptomatiques à rester chez elles. La Suisse fait donc à nouveau le pari de la responsabilité individuelle. Donc non, ce retour à la normale ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pandémie, juste que nous sommes mieux armés pour y faire face, selon Alain Berset, notre ministre de la Santé.
Nous avons une immunité qui est très très largement répandue dans la population. Nous avons des bonnes réponses, alors soit avec le vaccin, soit avec des médicaments qui arrivent encore. Effectivement, la situation est quand même nettement meilleur qu'il y a 2 ans. Donc on peut voir l'avenir avec optimisme, mais maintenant c'est pas fini. C'est pas fini, puis on sait pas trop ce qui nous attend cet automne, même si on est assez confiant.
Confiant, l'épidémiologiste Antoine Flao l'est un peu moins, surtout dans les lieux clos où le port du masque serait plus prudent.
Dans les milieux fermés qui reçoivent du public et qui sont pas très bien ventilés, on risque d'être infecté. Avoir le masque, c'est protéger les personnes vulnérables, mais c'est aussi protéger tout le monde, car en fait on n'est jamais à l'abri de ces formes de Covid long, très invalidantes. On pourrait avoir quelques surprises dans les mois à venir.
Le masque chirurgical risque donc bien de nous tenir compagnie à long terme sur une base volontaire cette fois.
Le virus qui circule bien donc, et à ce propos, en vue du premier tour de la présidentielle en France, Karine, on s'attend à de très nombreuses contaminations.
Eh bien en France, avec 130 000 nouveaux cas de Covid en moyenne par jour, il faut s'attendre à environ 500 000 personnes porteuses du virus le jour du premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril. Mais peu importe, tout le monde aura le droit d'aller voter avec un masque sur le bout du nez ou pas.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
On va parler football à présent, ou plutôt soccer comme on dit au Canada, parce que l'équipe masculine a tout récemment écrit un épisode important de son histoire. Nadi, c'était dimanche dernier.
Voilà, devant près de 30 000 spectateurs emmitouflés et survoltés et par une météo typiquement canadienne au stade BMO Field à Toronto, l'équipe a battu la Jamaïque 4-0 et s'est qualifiée pour une première Coupe du monde de soccer masculin depuis 1986. Imaginez, un seul joueur était né la dernière fois que c'était arrivé. La Coupe du monde de soccer est évidemment l'un des événements sportifs les plus populaires sur la planète. C'est donc un rêve qui devient réalité pour ces joueurs et un très grand moment pour le soccer canadien. Le mondial sera présenté au Qatar en novembre prochain.
Alors vous parliez il y a quelques instants de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs présents au match de dimanche dernier. L'engouement est donc manifestement important, on a dit au Canada, qu'on voit plutôt a priori comme le pays du hockey sur glace.
Oui, et cette récente victoire du Canada va sûrement renforcer cet engouement et cette fascination chez les jeunes. Il faut dire que le soccer prend de plus en plus de place dans la culture du sport ici. Les jeunes Canadiens choisissent très souvent le soccer comme sport d'été. Le directeur sportif de l'association de soccer de Gatineau au Québec, Giuliano Panchera, croit que la qualification du Canada va mener à une hausse des inscriptions de jeunes à cette discipline.
C'est sûr, c'est temps que les enfants vont s'appliquer, les parents vont voir le soccer d'une autre façon. Et c'est sûr, c'est temps que les inscriptions, on voit déjà que les téléphones au bureau, ça commence déjà à avancer.
Et un dernier point, puisque certains matchs de la Coupe du Monde de 2026 seront disputés au Canada, cela devrait aussi attirer les foules.
Nadi Mobarak pour Radio-Canada. On va se quitter cette semaine au Sénégal avec le coup d'envoi au Musée des civilisations noires de l'exposition Picasso à Dakar. 1972-2022. Cette expo présente des œuvres de l'artiste et des œuvres africaines. Et elle révèle, Nicolas, combien le maître du cubisme a été inspiré par l'art du continent.
L'exposition est conçue comme un dialogue entre des œuvres prêtées par le musée Picasso de Paris et des objets d'art africains mis à disposition par le musée Théodore Monod de Dakar et le musée du Quai Branly Jacques Chirac. On y découvre ainsi, d'un côté, une étude de 1907 pour le tableau Les Demoiselles d'Avignon et de l'autre, un masque baoulé de Côte d'Ivoire, dessin du nez, ovale des yeux, les similitudes sont évidentes et pour Guillaume de Sardes, l'un des quatre commissaires de l'exposition, ce n'est pas un hasard.
Picasso s'est intéressé tout au long de sa vie à l'art africain, puisqu'il a collectionné de l'art africain. Mais je dirais que c'est surtout sur la première partie de sa carrière, la plus importante, au moment où il cherche à se renouveler après la période rose et bleue, qu'il rencontre l'art africain, qui va ouvrir une voie et qui va déboucher de manière indirecte, c'est pas la seule influence, mais c'en est une, vers le cubisme.
Sur une photo, Picasso jouant du xylophone en 1957. En résonance, un balafon issu des collections du musée Théodore Monod, son directeur, El Hadj Malik Ndiaye.
C'est des moments en fait qu'on choisit pour voir le contact de Picasso avec l'imaginaire du patrimoine africain.
Un dialogue artistique, mais qui va au-delà, selon Hussein Iwad, également commissaire.
Ce dialogue de civilisation a été théorisé par Senghor. Picasso également a interrogé des œuvres qui n'étaient pas forcément des œuvres d'art européennes. Donc voilà quelqu'un qui nous a montré comment la diversité pouvait être extrêmement enrichissante et source véritablement de créativité.
Le président Léopold Sédar Senghor avait été à l'initiative d'une première exposition Picasso à Dakar. C'était en 1972 au Musée Dynamique.
Oui, Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal de 1960 à 1980. Merci Nicolas Sûr pour RFI. Et merci à vous tous qui avez participé à l'Accent des autres, les partenaires des médias francophones publics, Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Rendez-vous bien sûr, si vous le souhaitez, pour un nouvel Accent des autres la semaine prochaine.